Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Joie pour le monde, le Christ est né. Quelle merveilleuse raison on a ce matin de nous réunir. Et ce matin, comme le disait Jonathan, on va marquer une pause dans la série de prédications qu'on suit maintenant depuis plusieurs semaines, dans la première lettre de Paul à Timothée. Et donc on va se tourner évidemment vers l'histoire de ce premier Noël. Et je vous propose de voir ensemble que ce premier Noël était certainement pas aussi attendu et aussi prévisible que notre Noël 2018. Normalement, pour vous, cette semaine, à quelques détails près, tout va être entièrement prévisible. Vous savez où vous serez le 24 au soir, vous savez où vous serez le 25 au matin, vous savez où sont cachés les cadeaux, vous savez qu'est-ce que vous allez manger et avec qui, à quel moment. Bref, tout est prévu, tout est attendu. Les surprises, c'est pour les enfants, mais pour nous les adultes, normalement, tout est sous contrôle. Mais est-ce que vous avez déjà imaginé à quel point le premier Noël était inattendu ? À quel point la naissance de Jésus était, à bien des égards, surprenant et peut-être même un peu étrange ? Si nous, on devait imaginer aujourd'hui à quoi devrait ressembler la venue du Fils de Dieu ? Est-ce qu'un seul d'entre nous aurait pu imaginer ne serait-ce qu'une toute petite partie de ce récit de Noël tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Sûrement pas. Alors ce que je vous propose ce matin, c'est d'essayer ensemble d'arriver à redécouvrir le récit de ce premier Noël, de le voir peut-être avec un regard nouveau, un peu comme si on était les premiers témoins de ces événements. Et du coup, peut-être d'arriver ensemble à se laisser surprendre par ce que j'ai appelé un Noël inattendu. Et ce que je vous invite à voir ensemble ce matin, c'est que ce Noël, c'est l'histoire d'un Messie inespéré, né dans un village anodin et accueilli par des personnes étonnantes. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. On va juste prendre quelques passages marquants. Il y a quelques passages qui ont déjà été lus par des personnes ce matin. Et on va aller voir ces passages marquants. Mais avant d'aller dans Luc, on va d'abord faire un bond de 8 siècles en arrière. Parce que paradoxalement, ce Noël inattendu, il était en fait attendu, ou je devrais plutôt dire, il était annoncé. 700 ans avant la naissance de Jésus, voici ce qu'écrivait le prophète Ésaïe. Prenez pas le verset, il va s'afficher. Je lis dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Alors nous, on en est à notre 2018e Noël, pas individuellement, mais collectivement, on en est à notre 2018e Noël et on commence à comprendre un peu l'histoire. On a le contexte et on a le recul. Mais j'aimerais qu'on s'imagine les choses telles qu'elles étaient juste avant le premier Noël. Avant le tout premier Noël, qu'est-ce qui était attendu par les Juifs les plus fidèles qui avaient lu attentivement ce texte d'Ésaïe et d'autres textes donnés par les prophètes ? En fait, assez franchement, ils n'en savaient trop rien. Alors ils spéculaient peut-être un petit peu. Chacun avait son idée. Certains pensaient que les prophètes annonçaient un nouveau leader choisi par Dieu. D'autres espéraient un nouveau roi dans la même veine que David. Peut-être un prophète comme Élie ou Moïse, un représentant qui parlerait au nom de Dieu. Sans plus d'infos, ils s'étaient sûrement imaginé qu'une vierge allait concevoir un enfant d'une manière conventionnelle, standard. Je ne vous explique pas plus ce que ça veut dire, vous comprenez. Et que cet enfant qui naîtrait serait un simple homme qui deviendrait un nouveau leader fort du peuple d'Israël et donc qu'il porterait le nom d'Emmanuel simplement comme un signe. Et donc on se retrouve maintenant plusieurs siècles après cette prophétie d'Ésaïe, au premier chapitre de Luc, là où commence enfin l'histoire de ce premier Noël, ce Noël inattendu. Je lis maintenant dans Luc, au chapitre 1, verset 30, « Un ange apparaît à une jeune femme vierge, Marie, et voici ce que cet ange lui dit. N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. » Et ce jour-là, peut-être pour la première fois, le sens de cette prophétie d'Ésaïe devient finalement un peu plus clair. Après tant d'attentes, après tant d'incertitudes, Dieu commence enfin à lever le voile sur son plan. Par l'action du Saint-Esprit, Marie portera un enfant miraculeusement, et cet enfant sera le Fils du Dieu Très-Haut. Il sera appelé Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Mais Marie comprend aussi qu'il sera aussi l'expression littérale, la preuve vivante d'un autre nom, ce nom que nous a rapporté Ésaïe 8 siècles auparavant. Emmanuel, Dieu avec nous. Les Juifs, eux, espéraient un sauveur, une figure politique, un homme fort pour le peuple, mais ils n'imaginaient pas à quel point ils avaient placé bas le niveau de leur attente. Sur l'échelle des rêves les plus fous, eux, ils attendaient un alors que Dieu avait prévu 1000. Leur espérance était tellement, tellement loin de ce que Dieu avait en réserve pour eux. Dieu leur donne en fait un Messie inespéré. Emmanuel, Dieu littéralement, Dieu physiquement avec nous. Quand Ésaïe a écrit ça, ce n'était pas juste un nom, ce n'était pas juste un signe, c'était l'explication du plan de Dieu en clair dans le texte. Mais c'était tellement inattendu que personne n'avait compris en fait. Personne ne s'était imaginé cette possibilité-là, que Dieu se fasse homme en la personne de son Fils Jésus-Christ pour venir habiter parmi les hommes. C'est sans aucun doute le projet le plus grand et le plus fou de l'histoire de l'humanité. Et j'espère que nous, aujourd'hui, ce matin, en 2018, on n'oublie pas, par habitude, par lassitude, parce que cette histoire, on l'a tellement racontée, on n'oublie pas combien cette vérité est juste absolument incroyable. Donc notre Noël inattendu commence avec l'arrivée d'un Messie inespéré. On fait maintenant un bond en avant de quelques mois, et on arrive au début du chapitre 2 de l'évangile de Luc. Et on lit ici que sur l'ordre de l'empereur Auguste, Joseph et Marie quittent leur ville d'origine de Nazareth, en Galilée, pour se rendre à Bethléem, en Judée, plus au nord, pour un recensement. Arrive ensuite le moment clé du récit, l'accomplissement de ce qui a été annoncé. Luc au chapitre 2, verset 6. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. La description de Luc est étonnamment simple. Tout comme la pièce, l'humble mangeoire, c'est un environnement simple et sobre. Le contraste est frappant avec ce qui est en train d'arriver dans ces versets. Et on va voir que Dieu va utiliser des circonstances étonnantes de cette naissance miraculeuse pour nous donner des informations sur ce qu'il est en train de faire. Et en premier lieu, on a l'endroit de la naissance. Si c'était à nous d'écrire le scénario de ce premier Noël à la place de Dieu, quel lieu est-ce que nous on aurait choisi ? Quel endroit ? Peut-être Jérusalem ? La capitale politique et surtout la capitale religieuse, là où se trouvait le temple, une des merveilles du monde antique, un bâtiment magnifique, un témoignage du génie architectural et du travail du peuple d'Israël, et surtout le lieu incontournable du pouvoir et de la religion juive. Et pourtant, ce n'est pas sur Jérusalem que se porte le choix de Dieu. Et du coup, on se retrouve à Bethléem. Alors on se demande, est-ce qu'il y a eu une erreur ? Est-ce que Bethléem, c'était le plan B ? Il y a quelque chose qui s'est passé ? Tout à l'heure, avant sa prière, Stéphane nous a lu une parole de Michée, du prophète Michée. Michée écrivait à peu près au même moment que le prophète Ésaïe, donc 8 siècles avant la naissance de Jésus. Et je relis simplement ce verset, Michée chapitre 5. « Bethléem, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi il sortira celui qui régnera sur Israël, celui dont l'origine remonte loin à l'éternité. » Bethléem, de toi sortira, bien que tu sois petite, de toi sortira celui qui régnera. Et on a encore là une prophétie qui nous montre qu'une orchestration divine incroyable est à l'œuvre. Rien n'est laissé au hasard, absolument rien. Qui aurait pu prévoir le décret de l'empereur Auguste ? Qui aurait pu prévoir ce recensement qui aurait poussé Marie et Joseph de quitter Nazareth pour aller à Bethléem ? Mais bien que le lieu soit annoncé, le choix de ce lieu reste complètement surprenant et inattendu. Il y a un contraste frappant entre l'insignifiance de la petite Bethléem et l'incroyable importance de celui qui vient d'y naître. Peut-être que par là, Dieu veut nous montrer que ce qui a de la valeur à ses yeux, ce n'est pas forcément ce qui a de la valeur à nos yeux à nous. On a là en fait un Dieu qui est incroyablement libre et incroyablement souverain. Il n'est pas impressionné par la réussite des hommes. il ne tient pas rigueur des personnes et des lieux que nous, on aurait considérés comme incontournables. Il n'a pas besoin de s'associer à la grandeur des hommes et de s'appuyer là-dessus. Au contraire, il cherche même à s'en séparer. Voici ce que dit l'apôtre Paul au sujet de ces choix que Dieu fait si souvent et que nous, on peut trouver étonnants. Je lis dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, Paul nous dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. » Afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Aucune ville notable, aucune personne d'importance n'a pu se vanter d'avoir hébergé le Fils de Dieu. Dieu a tout fait pour mettre au premier plan sa gloire et sa souveraineté et son plan pour l'humanité. Mais ce Noël inattendu ne s'arrête pas non plus là. Dieu a en réserve quelque chose d'encore, peut-être encore plus surprenant que le lieu de la naissance. On continue notre survol de l'évangile de Luc pour arriver au verset 9 du second chapitre. Et ici, Luc nous rapporte que Dieu a envoyé une foule d'anges de l'armée céleste qui resplendissaient avec la gloire de Dieu pour annoncer la naissance de son Fils. Et voici leur annonce, elle a été lue aussi tout à l'heure par quelqu'un, c'est au verset 10, l'ange qui parle, qui dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né. » Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem, c'est lui le Messie, le Seigneur. Si, encore une fois, nous, on devait écrire le scénario du premier Noël, on aurait pu imaginer une telle annonce. Une chorale d'anges qui illumine le ciel en plein milieu de la nuit, un spectacle grandiose, ça aurait été approprié et digne pour le Fils de Dieu. Mais est-ce qu'on aurait choisi d'adresser cette annonce à un petit groupe de bergers qui prenaient soin de leurs troupeaux sur une colline en plein milieu de la nuit? Probablement pas. Et pourtant, c'est bien ce qui est arrivé. Les bergers sont les seuls témoins de ce premier faire-part céleste. Mais pour pleinement comprendre à quel point ces premiers destinataires sont étonnants, à quel point ce choix est surprenant, il faut qu'on arrive à se replacer dans le contexte de l'époque. Dans notre imaginaire collectif aujourd'hui, on a tendance peut-être un peu à idéaliser ces bergers. On les imagine de bonne nature, on les imagine comme étant avenants, gentils, doux, la barbe bien entretenue. Mais les contemporains de Marie et Joseph auraient été étonnés et même choqués par ce choix. Le statut social des bergers était parmi les plus bas qu'on pouvait trouver en Palestine à cette époque. C'était une classe méprisée, une population en marge de la société. Ils étaient mal considérés et donc on évitait autant que possible de s'associer à eux. Alors encore une fois, on se dit, mais sûrement il y a une erreur. Cette annonce était sûrement destinée aux autorités religieuses, à un roi, à un gouverneur, à quelqu'un d'important. On aurait pu trouver au moins le maire de Bethléem. Et pourtant non. À nouveau, Dieu nous prend à contre-pied. Et à nouveau, c'est ce verset de l'apôtre Paul qu'on a lu tout à l'heure qui nous revient en tête. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et ça ne s'arrête encore une fois pas là. Le Noël inattendu continue parce que le second groupe de personnes que Dieu invite à venir à la rencontre de son Fils est peut-être encore plus étonnant que ce premier groupe. Et cette fois-ci, je lis dans Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 et 2. « Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Contrairement à la croyance populaire, ces mages venus d'Orient n'étaient certainement pas des rois. En tout cas, rien dans le texte nous permet de l'affirmer. On ne sait pas s'ils étaient trois et on connaît encore moins leur nom. On sait simplement que ce sont des mages. Le texte permet aussi de traduire ce terme par des sages, des mages ou des sages, donc des personnes avec une certaine culture, une certaine connaissance, venus d'Orient, donc peut-être des Perses ou des Babyloniens. Et ils étaient très probablement spécialisés en astronomie et en astrologie. Ces deux disciplines étaient indissociables dans ces temps-là. La science et le mysticisme et la superstition se mêlaient. Et ici encore, on doit faire attention de ne pas s'appuyer sur notre imaginaire de Noël, qui est parfois un peu romanesque. Et on doit se demander, Comment est-ce que les contemporains du jeune Jésus auraient perçu ces personnages ? Premièrement, ils arrivent d'un pays lointain, un pays peu connu. Ils sont les représentants d'une culture païenne, une culture qui aurait été vue comme impure aux yeux des Juifs. Ensuite, ils sont spécialisés dans des pratiques de divination, d'astrologie, qui sont des pratiques explicitement interdites par Dieu à son peuple. Donc, on les aurait tout de suite étiquetés comme étant des personnes impures, des pécheurs. Alors, on imagine bien que Marie et Joseph n'étaient peut-être pas super sereins. Mais on se retrouve avec ce casting, ce premier casting, des bergers marginaux d'un côté et des mages étrangers de l'autre côté. Les premières personnes invitées à adorer et à louer le Fils de Dieu. Mais ici encore, Dieu ne laisse absolument rien au hasard, parce que par le choix de ces deux groupes, Dieu va annoncer et ouvrir le champ de la mission qu'il va confier à son Fils. Dieu nous montre ici qu'il nous a donné son Fils d'abord pour le peuple d'Israël, représenté dans le texte par les bergers. Mais il annonce aussi qu'il nous envoie son Fils pour toutes les nations de la terre, représenté ici par les mages venus d'Orient. Mais ça va encore même plus loin que la simple origine. Dieu nous montre aussi que son Fils est venu pour les marginaux, pour les exclus, pour les pécheurs, pour les personnes peu respectables et peu fréquentables. Il nous dit que son Fils vient sur la terre surtout pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore connu Dieu. Et aujourd'hui, cette même invitation, elle nous est étendue, elle nous est adressée. Et on peut se demander, pour nous, quelles sont les conditions pour rencontrer le Fils du Dieu Très-Haut. L'histoire de Noël nous rappelle que parmi ces conditions, il n'y a pas notre importance aux yeux des hommes. Parmi ces conditions, il n'y a pas non plus notre degré de religiosité ou notre connaissance préalable de Dieu. Parmi ces conditions, il n'y a pas notre origine ou notre niveau social. À vrai dire, l'histoire nous rappelle qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Répondre positivement à l'invitation offerte par Dieu pour s'approcher de son Fils. C'est ce que ces bergers ont fait, c'est ce que ces mages ont fait. Aucun d'entre eux ne s'attendait à être invité, mais tous, par contre, ont répondu présents, se sont présentés devant Jésus pour venir se prosterner devant lui et le louer. Voilà donc tous les éléments de notre Noël inattendu. L'arrivée d'un sauveur inespéré dans un village anodin, accueilli par des adorateurs surprenants. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à relever, tant l'histoire est riche. Les premiers témoins de la naissance de Jésus ont probablement été déroutés et déstabilisés par tous ces événements, mais ils ont aussi dû être, peut-être avec un peu de recul, émerveillés et fascinés par ce que Dieu a fait. Et j'espère que pour nous aussi, ce Noël, on arrivera à être émerveillés et fascinés, tout comme ces premiers témoins, un peu comme si nous aussi on découvrait l'histoire pour la première fois. Toutes ces circonstances nous rappellent combien Dieu est souverain. Toutes ces circonstances nous rappellent aussi combien la sagesse de Dieu est infiniment supérieure à notre sagesse. Mais peut-être qu'au final, le plus important, le plus surprenant dans cette histoire, ce ne sont pas les circonstances. La mangeoire, la petite ville de Bethléem, les bergers, les mages, toutes ces circonstances ne font que pointer vers le plus important, vers ce qui doit avant tout retenir toute notre attention. Et le plus important, c'est simplement ce que le prophète Ésaïe avait annoncé depuis le début. Emmanuel, Dieu, avec nous. C'est la réalité la plus importante au cœur de l'histoire de Noël. Et donc pour notre Noël 2018, je vous laisse avec 4 sujets de reconnaissance qui découlent de cette simple vérité, mais une vérité tellement importante. 4 sujets de joie pour le monde qui témoignent aussi de l'incroyable et de l'étonnante sagesse de Dieu. Premier sujet, Emmanuel, Dieu avec nous, soyons d'abord reconnaissants parce que Dieu est venu physiquement parmi nous. Ce Dieu qui pouvait nous sembler loin, qui pouvait sembler tellement différent de nous, nous montre d'une façon absolument incroyable combien il veut être proche de nous. Il nous tend une main et il vient à notre rencontre dans une forme qui nous permet de le connaître. Voici comment l'apôtre Paul exprime cette idée dans Philippiens au chapitre 2. Paul nous dit « Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur. » En se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Soyons donc reconnaissants pour ce Dieu qui nous connaît, qui a partagé notre condition et qui nous comprend parfaitement. Deuxième point, Emmanuel, Dieu avec nous, soyons ensuite reconnaissants parce que Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous, il n'est pas contre nous. Dieu nous a envoyé son Fils avant tout pour nous donner un sauveur. Paul nous dit dans Romains au chapitre 8, « Que dirons-nous donc de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Dieu incarné, Dieu fait homme pour qu'il puisse porter le châtiment réservé aux hommes à cause de leurs péchés. Dieu avec nous et pas contre nous. Troisième point, Emmanuel, Dieu avec nous, soyons reconnaissants parce que Dieu est avec chacun de nous, sans distinction, sans exception. On l'a déjà rappelé, Jésus est venu pour les juifs, pour les païens, pour les simples bergers, pour les astrologues. Jésus est venu ce matin, est venu parmi nous pour moi et il vient aussi pour chacun de vous dans cette salle ce matin. Et dernier point, Emmanuel, Dieu avec nous, soyons reconnaissants parce que Dieu est avec nous pour toujours. Christ est venu parmi nous, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité au troisième jour, il a été élevé pour siéger à la droite de son Père, et aujourd'hui il plaide notre cause auprès de lui pour l'éternité. Voilà ces quatre sujets de reconnaissance, quatre raisons de nous réjouir, quatre raisons pour dire que cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ est la meilleure nouvelle que nous ayons reçue. Quatre raisons aussi pour nous challenger à avoir une vision juste de Noël, à nous souvenir que cette histoire n'est pas un joli faire-part de naissance, c'est pas une scène qui est censée être mignonne et rassurante. Quatre raisons pour ne pas oublier que c'est une histoire qui est censée nous surprendre, qui est censée nous bouleverser au point de changer notre vie entière. Et pour finir, quatre raisons aussi pour nous joindre à la chorale des anges et pour dire avec eux « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Amen.